conférence de presse, une conférence de presse animée non pas par Félix Prosper-Bach, mais par Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Capi, membres de la presse, bonjour et bienvenue donc à cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Nous aurons, comme à l'accoutumée, le point de la situation militaire en RDC à partir de Goma avec le colonel Serge Hag. L'actualité pays sera présentée par Florence Marchal. Mais nous ouvrirons, comme d'habitude, la conférence de presse des Nations Unies avec l'actualité des différentes composantes de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme invité deux personnes. Tout d'abord, Madame Anne Encontre, représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, que nous accueillons d'ailleurs pour la première fois à cette conférence de presse. Bienvenue, Madame.
Merci beaucoup.
Et puis, nous avons un habitué de cette conférence de presse, José Maria Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui partagera avec nous le résultat du rapport sur les événements du 19 décembre dernier. Mais ouvrons tout de suite cette conférence de presse des Nations Unies à RDC par un extrait de la déclaration faite à la presse par le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York sur la situation en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité ont condamné fermement la violence observée dans la région du Kasaï au cours des derniers mois. Ils se sont déclarés gravement préoccupés par les informations récentes faisant état de violations graves du droit international humanitaire commises par les milices locales dans cette région, notamment le recrutement et l'utilisation illicite d'enfants soldats et le meurtre de civils par des membres des forces de sécurité de la République démocratique du Congo qui pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Les membres du Conseil se sont dit préoccupés également par les incursions récentes d'ex-combattants du mouvement du 23 mars en République démocratique du Congo et ont rappelé les engagements pris par les États de la région au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Les membres du Conseil de sécurité ont enfin réaffirmé leur plein appui à la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et à la nécessité pour toutes les parties d'appuyer les efforts de médiation et d'y participer de manière constructive. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration donc du Conseil de sécurité à la fin de cette conférence de presse. Information publique à présent donc, au Kasaï central, plus d'une centaine de mineurs incarcérés pour association au mouvement insurrectionnel Kamina Sapu ont été libérés. Cette libération fait partie des efforts des autorités de la province du Kasaï central pour pacifier donc la province en proie aux violences depuis plus de 6 mois. Et cette initiative a également bénéficié de l'appui de la MONUSCO à travers sa section protection de l'enfant. C'est donc pour soutenir les efforts du gouvernement congolais à juguler la situation que depuis décembre 2016, la MONUSCO renforce sa présence militaire dans les Kasaï. Ce renforcement s'est traduit par une présence notamment à Kananga, au Kasaï central, et le déploiement dans 3 bases temporaires mobiles dans 3 zones de cette province, à Chimbulu, Luisa et Kamena Kamwanga, pour la protection des populations civiles. La MONUSCO a aussi décidé de renforcer son effectif civil depuis donc le début de cette année en dépêchant une mission pluridisciplinaire d'évaluation de la situation sécuritaire avec les autorités du Kasaï central, du Kasaï oriental, de l'Omami et du Kasaï sur les pistes de solutions pour ramener la paix. En Ituri, il convient de noter que dans le cadre des projets de réduction de la violence communautaire soutenus par la MONUSCO et impliquant la construction du marché de Kagaba et de Guéti, ainsi que la réhabilitation d'une partie du réseau routier dans la collectivité de Walendu-Bindi, environ 240 anciens combattants du FRPI, Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, démobilisés, ont été engagés pour travailler sur ce projet aux côtés de 480 autres civils. Toujours en Ituri, les communautés Les Vonkutu et Yira du Nord Kivu se sont réconciliées sous l'impulsion de la MONUSCO à travers un dialogue intercommunautaire. Ces deux communautés ont ainsi signé un accord de paix le 25 février dernier en présence du chef du bureau de la MONUSCO et du ministre provincial de l'Intérieur. Donc c'était à Ofé dans le territoire d'Urimu. Cet accord vient mettre fin donc au conflit né entre les deux communautés depuis 2014. Après près de 3 ans, les deux parties ont décidé de privilégier la voie de la paix et du dialogue grâce aux efforts consentis par la section des affaires civiles de la MONUSCO de Bunia. Veillée à Sida, la MONUSCO se joint au reste du monde pour célébrer la 4e journée consacrée à zéro discrimination. C'est ce 1er mars 2017 que donc le monde entier célèbre la journée internationale zéro discrimination. RDC, cette journée est l'occasion pour la MONUSCO, à travers sa section VIH-SIDA, de continuer sa campagne de sensibilisation contre la discrimination liée au VIH et au SIDA, dont le nombre de cas s'accroît chaque année, pas seulement en RDC, mais partout dans le monde. En synergie donc avec l'ONU SIDA, la MONUSCO entreprend des campagnes pour sensibiliser la population afin de réduire le nombre de cas de ce phénomène qui reste l'un des obstacles majeurs dans la lutte contre le VIH. Ainsi, Faites du bruit pour zéro discrimination est le thème retenu cette année pour la célébration de cette 4e journée. Journée donc zéro discrimination consacrée à la lutte contre la discrimination. Annonce de la MONUSCO à toute la population congolaise concernant le recrutement au sein des Nations Unies. Récemment, des employés des bureaux de Kinshasa et à travers le pays nous ont rapporté que des personnes inconnues ciblent d'autres personnes désireuses de faire acte de candidature à des postes de la MONUSCO, particulièrement les femmes, leur estorquent des sommes d'argent en guise de supposés frais de candidature. Ceci est une escroquerie flagrante et regrettable, d'autant plus que la MONUSCO et les Nations Unies sont en général, encouragent en général donc fortement les candidatures féminines qualifiées pour avancer sur le chemin de la parité dans leur effectif. Que les choses soient donc bien claires, les Nations Unies et la MONUSCO de façon générale ne demandent jamais de l'argent aux candidats au poste de recrutement pour le dossier de leur candidature. Nous demandons donc à tous les médias qui diffusent cette note, qui vont diffuser cette note, de souligner et notamment d'insister sur la mention que l'ONU ne perçoit aucun frais à aucun stade de recrutement, dépôt ou traitement de la candidature, entretien, formation, etc. Elle ne demande également aucune information bancaire des candidats. Voilà donc tout pour ces informations concernant la MONUSCO. À présent, nous allons céder la place à Madame Florence Marchal, qui, au nom du groupe de communication donc des agences du système des Nations Unies ici, va partager avec nous quelques informations. Bonjour Florence, c'est à vous.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le cap des 2000 tonnes de matériel de la CENI transporté par des avions de la MONUSCO vient d'être franchi dans le cadre du soutien apporté par les Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral en RDC. À cela s'ajoutent plus de 240 rotations effectuées par des hélicoptères de la mission entre les grandes villes du pays et les antennes afin de livrer le matériel dans des zones difficiles d'accès. Par ailleurs, l'acheminement de générateurs en provenance de Chine se poursuit entre Mombasa au Kenya et la RDC. Le déploiement du matériel de révision du fichier électoral a également commencé dans l'aire opérationnelle numéro 4 qui regroupe les provinces du Congo central, Kwango, Kwilu, Maïdombe et Kinshasa. Là aussi, les Nations Unies apportent leur soutien par hélicoptère et par la route. Nous le répétons malheureusement souvent à cette conférence, la RDC fait face à des défis humanitaires graves. La question sera également abordée par notre invité spécial. L'UNICEF, en réponse à cette situation, met en œuvre avec ses partenaires un programme de réponse rapide aux mouvements de population. Cette semaine, une foire d'articles ménagers essentiels en faveur de plus de 1000 ménages déplacés a ainsi été organisée à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, dans la province du sud Kivu. L'UNICEF a également apporté un appui à l'éducation des enfants par la réintégration à l'école de plus de 700 écoliers et par la distribution de kits scolaires à plus de 4000 élèves issus des communautés de déplacés, autochtones, vulnérables et des familles d'accueil. Alors si l'UNICEF veut poursuivre de tels programmes d'assistance, plus de fonds lui seront nécessaires. C'est ainsi que l'UNICEF a lancé un appel de fonds de 119 millions de dollars américains il y a un mois. Et à ce jour, seul le gouvernement du Japon s'est engagé à libérer 800 000 dollars. Je vous rappelle que près de 4,5 millions d'enfants requièrent une assistance humanitaire en République démocratique du Congo. Le Bureau des Nations Unies aux affaires humanitaires nous signale une nouvelle flambée inquiétante de choléra dans les zones de santé de Fizi, Nundu et Uvira, où près de 230 cas, dont un décès à Fizi, ont été enregistrés ces deux dernières semaines. Le plus grand défi dans cette province endémique au choléra est l'accès à l'eau et à l'hygiène. En 2016, près de 5000 cas ont été enregistrés, dont 28 mortels. Autre défi sanitaire signalé par OCHA, le nombre croissant de cas de rougeole dans le territoire de Shabunda. Une campagne de vaccination est en cours dans la zone de santé de Matili où ont été rapportés les premiers cas. Toutefois, la province fait face à un manque de vaccins disponibles.
Voilà, merci donc à Florence Marchal pour ce tour d'horizon de l'actualité de l'équipe pays en RDC. Direction à présent Goma, nous allons retrouver comme chaque semaine le lieutenant-colonel Serge Hague, porte-parole militaire de la MONUSCO. Colonel, bonjour, c'est à vous.
Situation militaire. La situation de sécurité à la Kinshasa ainsi que dans les autres provinces situées dans les parties centrales et occidentales de la République démocratique du Congo a été jugée stable mais volatile durant la semaine écoulée. Au Kasaï central, les accrochages entre les forces de défense et de sécurité congolaises continuent d'être rapportés. La MONUSCO poursuit, aux côtés des autorités communautaires et gouvernementales, ses efforts visant à restaurer la quiétude et assurer la protection des populations civiles dans la région. À cet effet, la force de la MONUSCO a déployé des troupes additionnelles du bataillon uruguayen dans les régions de Timbulu, 85 km à l'ouest de Bene-Ditou, et de Luisa, 105 km au sud de Kananga, dans le but de mettre un terme à l'activisme des miliciens, de renforcer sa présence et de protéger les civils. Dans les provinces de Haut et de Bas-Ouélé, les forces de défense congolaises, soutenues par la force de la MONUSCO, demeurent engagées dans la lutte contre la résurgence des exactions perpétrées par les éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA contre les populations civiles en Ituri. Les activités militaires menées par la coalition FADC-MONUSCO, Police nationale congolaise, contre l'activisme des éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, ont engrangé des résultats significatifs durant la semaine écoulée. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est demeurée globalement instable. Dans le territoire de Beni, une accalmie relative a été observée pendant la période sous examen suite aux différentes activités militaires menées par les forces coalisées FRDC-MONUSCO contre les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF. Dans le territoire de Rutshuru, la situation sécuritaire a été marquée par les opérations menées par l'armée congolaise avec le soutien de la force MONUSCO contre les éléments réfractaires des groupes armés. Le 21 février 2017, la force de la MONUSCO a pris des mesures préventives et mis en place un dispositif sécuritaire adéquat destiné à surveiller tous les mouvements de ces éléments à travers le territoire de Rutshuru et d'interdire toute infiltration dans la région de Goma. Des patrouilles intensives vigoureuses de la force onusienne ont également été déployées jusqu'à Kibumba, 30 km au nord de Goma, dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et de contrer toute incursion d'éléments armés. Des missions de reconnaissance aérienne de longue portée ont aussi été menées au-dessus des régions submentionnées dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et d'initier des réponses militaires appropriées. Au chapitre des reddictions, dans la province du 22 février 2017 à ce jour, trois éléments en provenance des groupes armés, dont un des forces démocratiques de libération du Rwanda, se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud Kivu, les forces congolaises et onusiennes maintiennent sous leur contrôle la situation sécuritaire en dépit de l'activisme de quelques groupes armés réfractaires. Au Tanganyika, les forces de défense de sécurité congolaise continuent sans relâche, avec le soutien de la force de la MONUSCO, de fournir des efforts significatifs visant à mettre un terme au conflit interethnique entre les communautés Luba et Twa et à favoriser la réconciliation de celles-ci. Enfin, la force de la MONUSCO a mené de nombreuses patrouilles armées de jour comme de nuit et fourni plusieurs escortes pendant la période sous examen. Merci.
Voilà, merci donc au colonel Serge Hague depuis Goma. Nous allons nous retrouver ici à Kinshasa, comme je vous l'ai annoncé au début de cette conférence de presse, deux invités. Et nous allons commencer tout de suite par l'invité qui est à l'extrême droite, José Maria Aranaz, un habitué de ce forum. José Maria Arana, je crois que vous nous rejoignez aujourd'hui pour parler du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est un rapport conjoint d'ailleurs avec le Haut Commissariat des Nations Unies à Genève sur justement les événements du 19 décembre dernier. La parole est à vous. Quels sont les gros points de ce rapport, s'il vous plaît?
Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Très brièvement, comme nous avons annoncé, le rapport final des enquêtes conjointes de la MONUSCO et de l'Haut Commissaire des droits de l'homme des événements de décembre de l'année passée ont documenté les graves violations des droits de l'homme. Nous condamnons de première manière la violence des manifestants, même si c'était au-delà de notre mandat, mais aussi les graves violations des droits de l'homme documentées. Au moins 40 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre et de sécurité, dont 5 femmes et 2 enfants. 145 personnes blessées par les agents de l'État, dont 14 femmes et 18 enfants, et aussi plus que de 900 personnes arrêtées. Ça montre l'usage excessif de la force et que nous avons dénoncé comme une tendance préoccupante. En matière de recommandations, nous avons partagé les rapports avec les autorités et nous avons recommandé de mener les milliers de lettres des enquêtes indépendantes et approfondies, crédibles et transparentes et impartiales sur ces violations des droits de l'homme commises par les agents de l'État et faire la lumière sur tous les événements. Aussi, de garantir les droits de l'homme et libertés fondamentales de toute personne, y compris aux opposants politiques, journalistes et autres acteurs de la société civile, femmes et enfants, et de veiller à que toute restriction de liberté respecte les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Et troisièmement, au Parlement d'adopter le plus bref possible la loi de liberté de manifestation et celle des défenseurs des droits de l'homme en conformité aux standards internationaux signés par l'RDC.
Voilà, vous aurez l'intégralité de ce rapport, donc sur les événements du 19 décembre dernier, à la fin de cette conférence de presse, bien entendu. Et comme je vous le disais, nous allons passer tout de suite à notre dernière invitée de cette conférence de presse, Madame Anne Encontre, qui est représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ici en RDC. Elle vient nous rendre visite pour la première fois, une fois de plus, bienvenue. Et je crois que la préoccupation majeure du HCR, ce sont les réfugiés. Je suis sûr que vous allez nous parler de réfugiés, n'est-ce pas? C'est bon, allez-y.
Oui, c'est bon. Oui, nous sommes très occupés par la situation en sud de Soudan, surtout dans la région de l'Équatoria, parce que maintenant nous avons arrivé à un flux continu de centaines de réfugiés, de nouveaux arrivés qui arrivent par semaine en RDC. C'est en hausse, la tendance c'est en hausse. Ceci dû au conflit, comme je disais, dans la région de Sud-Soudanais et l'Équatoria, qui n'était pas la situation auparavant. Les réfugiés de Sud-Soudan devenus un groupe. Le plus important parmi eux, ce sont les femmes et les enfants. 80% des femmes et les enfants. Et pour la plupart, les enfants séparés de leurs parents, et les parents, bien sûr, sont séparés de leurs enfants. Il y a aussi les vieillards et les personnes âgées. En ce qui concerne la réponse, nous travaillons très étroitement avec les autorités locales. Nous ne voudrons pas créer les camps, mais nous voudrons donner assistance aux réfugiés et les habitants à côté. Et comme ça, ils peuvent aller dans les mêmes écoles, les centres de santé et profiter d'assistance humanitaire des agences des Nations Unies et aussi le gouvernement de RDC, bien sûr. Nous avons beaucoup de questions sur les droits de réfugiés de voter pour les élections qui nous attendent. Les réfugiés en RDC, ils n'ont pas le droit de voter. Ils sont les citoyens de d'autres pays. Ils n'ont pas le droit de voter ici, en RDC. Mais par contre, les personnes déplacées internes, ils ont le droit de voter. Et nous faisons le plaidoyer pour qu'ils soient enregistrés et enroulés où ils se trouvent, dans les endroits où ils se trouvent, pour la plupart, en dehors de leur village d'origine. Je voudrais arrêter ici juste pour dire que nous sommes maintenant à 71 000 réfugiés de Sud-Soudan. Mais parmi les réfugiés, nous avons aussi les réfugiés de Centrafrique, la République centrafricaine, les Burundais, et le nombre s'élève à 454 700 réfugiés ici en RDC. Merci.
Merci bien, Madame Encontre. Merci pour cette présentation sur la situation des réfugiés en République démocratique du Congo.